Je vais parler de littérature, mais du 19e. Heureusement, sous l'angle des méthodes finalement assez récentes, un peu tournant spatial, et puis aussi sous l'angle d'un phénomène qui a toujours existé finalement dans les stratégies des réceptions, mais qui vient d'être conceptualisé plus ou moins dans le laboratoire lecture de l'Université de Reims et qui a été appelé l'arrière-texte. Donc finalement, c'est tous les textes qui circulent dans une certaine époque et qui assurent une sorte d'influence indirecte d'une littérature à l'autre. Et puis, j'ai un tout petit peu changé le titre de ma communication en travaillant sur le sujet. Et puis, j'ai enlevé la deuxième partie. Donc, le titre, c'est le Chartreux hongrois, la relation de Joseph Eötvös et de Stendhal. Pour saisir l'essentiel commun des esthétiques romantiques, la communication propose de partir des réflexions nées à l'époque et surtout au tournant des 18e et 19e siècles en France et en Hongrie sur la nature, sur l'espace et sur l'histoire. On s'approche ainsi à la notion du romantisme comme vision philosophique, esthétique et comme une période historique déterminée de l'Europe. Même s'il nous paraît malaisé d'établir les limites entre l'époque des Lumières et le romantisme, il est évident que beaucoup d'éléments du romantisme à venir, avant de devenir une école ou une idéologie que Chateaubriand lui reproche très vite, sont déjà présents dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle au niveau de la sensibilité. Les accents se déposent lentement, les éléments glissent les uns par rapport aux autres à l'intérieur du système. D'après notre hypothèse, la Révolution fait ressentir profondément au romantique français le drame de la contradiction entre les anciennes valeurs et la nouvelle morale. Comprendre le présent à travers le retour vers le passé historique pour retrouver un système dans l'évolution des événements historiques est bien la démarche des Lumières. Les romantiques suivent de leur part également cette démarche. Mais il surgit encore chez eux ce caractère personnel de voir les choses. Ils vivent la catastrophe de leur pays comme leur propre tragédie individuelle. Ils assument l'histoire comme la leur, comme leur propre temps personnel et intime. C'est cette crise de valeur qui engendrera une nouvelle poétique puisque le temps historique vécu comme intime transforme parallèlement leur vision sur l'espace. Dans cette vision, l'espace parcouru lors des voyages et dans les textes par les personnages devient l'empreinte de leur identité et de leur sensibilité. Nos ambitions sont à rapprocher les esthétiques romantiques françaises, Stendhal et hongroise, et Joseph Eötvös, du point de vue des considérations sur l'espace, base commune possible et théories différentes sur le romantisme. Pour ce faire, nous nous inspirons de nos lectures personnelles, spontanées et quelque peu naïves. La Chartreuse de Parme de Stendhal nous a évoqué directement le Chartreux roman de Eötvös, peut-être grâce au titre et grâce au fait que la grande Chartreuse où se déroule ce roman se trouve à 26 km de Grenoble, ville de Stendhal. Pourtant, à part ces associations hasardeuses, nous retrouvons des points communs évidents entre les deux auteurs. Pour Eötvös, son pays de prédilection est la France, comme pour Stendhal, son pays adoptif est l'Italie. Pour tous les deux, ce choix identitaire est justifié par des faits autobiographiques. Le jeune Eötvös voyage beaucoup en France, ainsi que Stendhal qui accomplit une mission diplomatique en Italie. Eötvös refuse son père autoritaire et conservatif, comme Stendhal le sien, en rejetant même le nom paternel. Il est intéressant de voir ces éléments communs, d'autant plus que Eötvös, pareillement à ses compatriotes hongrois, ne se réfère presque pas à l'œuvre de Stendhal. C'est plutôt Chateaubriand, dont les romans sont très vite traduits en hongrois, Victor Hugo, le modèle principal pour les poètes hongrois, Musset et plus tard Alexandre Dumas, qui alimentent les sources du romantisme et du réalisme hongrois du XIXe siècle. On peut donc parler d'un impact oblique, et c'est à ce point-là qu'on peut saisir ce phénomène qui peut être appelé arrière-texte. Mais partir des points communs, voire après les écarts et les déviations de ces éléments à première vue semblables, découvrir ensuite leur logique est un exercice passionnant. Les conceptions et les écrits de Stendhal s'intègrent parfaitement dans le cours de son siècle. S'il est révolutionnaire dans ses conceptions sur le romanticisme, comme il l'appelle, il est encore plus dans ses écrits personnels et littéraires ou la recherche d'une identité rêvée sur les chemins européens il se projette dans les paysages qui reflètent ainsi sa propre personnalité. La conscience stendhalienne ne se dirige donc pas vers les perceptions intelligibles, beaucoup plus vers les perceptions sensibles. Les paysages chez lui se transforment alors en espace mythique, puisque dans l'esthétique de Stendhal, le temps présent historique, dans les récits de voyage par exemple, devient toujours temps mythique grâce à son point de vue subjectif et personnel. Ce regard rend réversible le temps et lui ôte son caractère tragique et dramatique si cher aux romantiques. Italie est plus italienne dans ses textes qu'elle ne le soit en réalité, tout en représentant pour l'écrivain un véritable espace romantique face à la France, je cite, « terre des soucis et du froid », symbole des valeurs absolues de l'ancienne esthétique classique. L'historique entrant dans la dimension de l'individuel ne modifie pas seulement la vision temporelle et avec cela spatiale, mais transforme les faits historiques en faits mythiques. Dans cette perspective, l'existence individuelle est vécue au niveau de l'histoire, et pas seulement la vie, mais l'histoire aussi s'élève dans les dimensions mythologiques. Évoquons juste les perspectives de Fabrice Del Dongo dans La Chartreuse de Parme. Déjà, dans ses écrits de voyage, Stendhal exprime cette sorte de mal de siècle résultat du refus des valeurs absolues, des religions par exemple, et un univers incertain et fragmentaire, ce qui rappelle d'une manière anachronique un peu la phénoménologie impressionniste. On n'y trouve pas de grands panoramas comme chez Chateaubriand dans ses descriptions américaines au début d'Atala. L'auteur de Rome, Naples et Florence nous présente le paysage italien dans un style impressionniste saccadé, même si nous pouvons découvrir les mêmes stéréotypes au niveau de l'articulation basée sur l'opposition. Je cite Rome, Naples et Florence de Stendhal. Nous venons à Monticello, vue admirable de la Casa Cavalletti. Je n'ai jamais rien rencontré de semblable. À l'horizon, on aperçoit le dôme de Milan et, plus loin, une ligne bleue dessinée sur le ciel par les montagnes de Parme et Bologne. On est sur une colline, à droite, vue superbe, plaine fertile et rochers, deux ou trois lacs, à gauche, autre vue magnifique et qui, dans tous ses détails, est l'opposé de la première des collines, la Madonna di Montevecchia. Fin de citation. Dans le roman de Tvoch, on découvre au contraire des images qui évoquent beaucoup plus la poésie romantique de Victor Hugo, où l'état d'âme du contemplateur se projette dans le paysage naturel conformément à la théorie de contemplation qui suppose une nature parfaite en harmonie avec l'homme étant la création divine. Le paysage autonome reflète l'état d'âme du narrateur quand il se dirige vers la grande chartreuse pour quitter le monde des ruses et des corruptions. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure que même si le roman de Joseph Tvoch, Le Chartreux, a été traduit en français, mais à partir d'une traduction anglaise. Donc, je me suis réjouie de traduire ces quelques phrases de mes citations en français. Donc, je cite Joseph Tvoch, Le Chartreux. L'automne a déjà ôté les feuilles aux arbres, et comme si celles qui restaient encore attendraient leur délivrance, s'y pendaient jaunes et rouges chargés de lourdes gouttes. L'herbe sur la route était givrée et le vent glacial de l'automne venant des montagnes parcourait le paysage et avertissait les gens de la vallée que l'hiver s'approchait. Tout était triste et abandonné autour de moi. Il est intéressant de constater que le nom de Stendhal n'apparaît presque pas dans les textes quand nous cherchons son impact et les traces de son romanticisme chez les écrivains hongrois. Pourtant, les romantiques hongrois, notamment Joseph Tvoch, puisent des mêmes sources que l'auteur français. Tous les deux sont les fils des Lumières français, ils subissent les mêmes influences allemandes et anglaises, ils dialoguent alors d'une manière indirecte à travers les frontières. Cette constatation est d'autant plus curieuse que les romans de Stendhal ont été tous traduits et retraduits, mais seulement à partir du XXe siècle et ont connu un succès immédiat auprès des lecteurs hongrois. Le Rouge et le Noir paraît pour la première fois en 1905, De l'amour en 1913, La Chartreuse de Parme en 1923. C'est aussi dès le début du XXe siècle que le nom de l'écrivain français se découvre dans les écrits critiques. Réaliste est le mot-clé de la canonisation de Stendhal, phénomène qui va de pair avec la fondation de la doctrine du réalisme critique. Même s'il faut admettre que la question des romantismes nationaux est beaucoup plus complexe pour qu'on puisse la résumer en quelques phrases et sans tenter de faire une analyse comparative une analyse comparative approfondie des romantismes français et hongrois, l'historien de la littérature peut conclure, après avoir lu une partie des œuvres des deux cultures respectives, que les romantiques français essaient de s'approcher de leur identité nationale et culturelle en se distinguant au niveau de l'esthétique. Les hommes de lettres romantiques hongrois, quant à eux, ont une vision fort tragique et pathétique sur le destin de leur pays et de leur propre vie intime. Une vision qui semble d'ailleurs s'accomplir après 1848. Si l'on fait un rapide aperçu sur la carrière du baron József Eötvös, écrivain et homme politique, on voit bien en quoi le passé, le destin et l'œuvre individuelle rejoignent le passé et l'avenir national. On peut également retrouver les similitudes sur certains points avec la fortune de Stendhal. Eötvös est né en 1813, l'opinion publique trouvait que son père était l'homme le plus déplaisant de la Hongrie. Sa mère, par contre, lui a transmis la poésie de Goethe, le sentimentalisme allemand et l'idéal de la générosité sentimentale. Son précepteur lui fait connaître les idées des Lumières. Ses camarades d'école lui apprennent que son père est l'objet de la haine publique et nationale. À l'âge de 15 ans, il compose déjà des poésies. Il commence à suivre l'élégant et sentimental Ferenc Kozinczy, grand organisateur de la vie littéraire, défendeur fervent de la langue hongroise et créateur de tout un nouveau vocabulaire hongrois à l'époque où l'usage de la langue hongroise dans la vie publique et littéraire n'est pas du tout évident. Son grand idéal reste un autre poète hongrois, Ferenc Kölcsey, auteur de notre hymne national. Ses conceptions politiques et sa rupture avec le monde aristocratique sont suscitées aussi par un fait personnel comme chez Stendhal, chez qui les crises de la vie engendrent ses textes d'après ses aveux dans la vie de Henri Brulard. Je cite « Voyages, grands et terribles amours, consolation en écrivant des livres ». Fin de citation. Eötvös, amoureux d'une fille bourgeoise écartée de sa bien-aimée par sa famille aristocratique, se console lui aussi en quittant la maison paternelle, en faisant de grands voyages en Europe, ce qui lui élargit considérablement sa perspective. En rentrant, il se met à écrire son premier véritable roman, Le Chartreux, qui marque les débuts de l'évolution du roman philosophique et social en Hongrie et qui est vite couronné de succès. Le Chartreux n'est pas encore un roman politique et historique que cultivera plus tard Eötvös. Il est l'expression de ses doutes, de ses chagrins, de sa philosophie naissante. Mais à part ses inspirations personnelles, il subit des influences venant de l'extérieur. D'après ses propres références, c'est surtout Byron de Childe Harold et Don Juan qui l'a influencé, mais les historiens ont observé également les influences incontestables de Rousseau et de Chateaubriand. D'une manière étonnante, les différences entre Rousseau et Eötvös relèvent du même plan que les divergences entre l'auteur des Rêveries et l'écrivain de René, notamment des rapports de l'homme et de la nature. L'analyse de cette problématique n'est pas ici notre propos. En évoquant simplement cet aspect, on peut dire que tandis que chez Rousseau, l'individu s'isole du monde en se retirant dans la nature, chez Chateaubriand, la nature lui signifie la possibilité d'entrer en harmonie avec le cosmos, donc lui-même, ou le dilemme entre le monde civilisé, c'est-à-dire corrompu, et la nature sauvage, naïve, mais authentique, cesse d'exister. Chez Eötvös, l'individu ne peut retrouver son équilibre intérieur qu'en harmonie avec la nature et la société. Les mêmes alternatives s'observent chez les héros de Stendhal également, amplifiées maintes fois par la critique. À lire les études sur le Chartreux d'Eötvös, on a l'impression que l'auteur s'appuie à la fois sur trois ou quatre modèles romanesques, sentimental, romantique, réaliste, historique. La date d'écriture remonte jusqu'en 1837-38. Mais il a été publié en 1841. Apparemment, l'auteur y a intégré à plusieurs reprises les extraits de son propre journal intime. Pourtant, l'histoire racontée à la première personne dans des lettres envoyées à un ami par le jeune héros Gustave, désillusionné du monde des artifices et des ruses, est fictive. Cette œuvre est en même temps sagesse, poésie, roman personnel, roman philosophique, roman d'éducation. L'histoire se déroule dans les milieux les plus chics de Paris de l'époque et son motif central, semblable à celui du roman stendhalien, l'abaissement des valeurs morales, la chute de Julie, l'objet de l'amour impossible et malheureux de Gustave. Ce qui, à travers les péripéties du héros et la reconnaissance de ses propres fautes, sert à l'élévation morale à la fin du roman. L'auteur de ses aveux y traite des plus importantes questions sociales et politiques de son pays avec la plus grande responsabilité. Les formes mixtes du roman vacillent donc en Hongrie et ailleurs en Europe centrale et orientale entre la vision romantique et réaliste, nettement séparée par la critique idéologique communiste voir George Lukács, par exemple. Dans les textes littéraires, ainsi que dans leur préface et à mon propos, on voit de près ce double mirage de la nature positive, réaliste et métaphysique, romantique. Cette évolution littéraire, beaucoup plus spatiale que chronologique, reflète souvent à l'intérieur du même ouvrage les voies possibles à suivre pour les gens de l'être hongrois et en général européen, qui se déchirent entre l'individuel et l'universel, entre la raison et les passions, entre le rationnel scientifique et la transcendance mystique. László Földényer, philosophe contemporain hongrois, appelle cette faille le piège de l'histoire naturelle romantique. Paul de Mans explique, face à la poésie du XVIIIe siècle, le romantisme décrit, le paysage naturel d'une manière précise, détaillée, empirique. Mais à la fin, le paysage perd toute sa détermination géographique et devient l'expression du moi, devient allégorie. La question centrale du romantisme, d'après le philosophe français, est la dialectique du sujet et de l'objet. Par exemple, le jardin construit dans la Nouvelle Héloïse de Rousseau est dépeint au moyen de l'allégorie qui ne reflète plus l'âme de l'individu, mais le produit de l'esprit ingénieur. Par contre, le jardin sauvage solitaire est un symbole et évoque la dominance de la passion, c'est-à-dire la nature. La représentation du temps s'y réalise d'une manière évidente, d'après l'ordre spatial, puisque le temps ne nous est pas donné, l'espace l'est. Le temps est le maître de l'homme qu'il possède grâce à la mémoire d'une manière intime. Avec l'espace, le rapport est inverse. Dans notre conscience, l'un et l'autre s'opposent des impressions de continuité, de discontinuité, de globalité, de distinction. Tout discours sur le monde s'articule autour de cette opposition. Les questions sur l'espace tendent à envahir le champ de la conscience commune romantique, dédramatisant ainsi l'universelle temporalité. Tout vivant a son espace, le temps le traverse. L'espace quotidiennement vécu est toujours réversible, le temps ne l'est pas. Ötvös, notre auteur hongrois, en parlant des souvenirs du passé, compare le temps révolu des souvenirs aux ruines d'une maison. Image certes stéréotypée, mais reste plastique et symptomatique. Je cite, comme le maître parmi les ruines de sa maison écroulée, mon imagination erre dans le passé, que de ruines. Et si je regarde en arrière dans ma vie, que d'amour, que de foi, que d'amitié et que d'espoir. Aujourd'hui pourtant, que de ruines. Nous avons perdu le sens qui faisait nos ancêtres vivre l'espace comme une forme globale et abstraite. Il n'est d'espace réel que celui qu'on parcourt. L'étendue au sein de laquelle on se situe devient densité extrême ou vide ou appel à l'action. Au-delà de l'espace, tout souffle sur l'infini et de multiples effets de sens tiennent à l'intrusion en nous et de notre objet. Comme nous explique Paul Zumthor dans son livre intitulé « La mesure du monde », je cite, de tous les malentendus qu'implique ainsi notre rapport vital avec ce mystérieux espace, subsiste la mémoire d'un regard primal, à la fois constat et connaissance, dilatation de l'individuel accédant à l'universalité. C'est sur cet espace-là, fin de citation, c'est sur cet espace-là que s'exerce la fonction fantasmatique, laquelle contribue à sa constitution et à son maintien. Grâce à elle, s'y marque une volonté d'identité qui le recharge de valeurs d'espoir. Il dessine les trajets de l'imagination et règle ceux-ci sur les dimensions de la forme englobante, élévation et abaissement, surface et profondeur, répétition et retour. C'est exactement le rythme des récits d'arrivisme où le désir de l'élévation sociale trace un parcours géographique vers la capitale. On observe alors un double itinéraire, horizontal et vertical à la fois. On ne se réfère pas ici sur Stendhal puisque l'histoire de Julien Sorel ainsi que des péripéties et les parcours de Fabrice d'Erdongon sont trop connus. Il est peut-être plus rentable de citer notre auteur hongrois qui oppose admirablement dans une et même image le haut et le plat, la montagne et la plaine. Je cite, le jeune français entre dans la vie avec des hauts désirs, mais quand il est déjà dans la vie, la réalité froide se présente devant lui et ses rêves et ses espoirs se diminuent à chacun de ses pas. Comme les montagnes qui, en nous éloignant d'elles, se diluent au loin, et la vie devient la grande plaine. Fin de citation. Dehors et dedans, aussi, perspective privilégiée qui se propose autant au héros sandalien qu'au protagoniste de Tvush, forme une dialectique, comme dit Bachelard, cette dialectique à la netteté tranchante du oui et du non. Elle est la base d'une série d'images condamnant les pensées du positif et du négatif. Je saute une partie hein, parce que je n'ai pas suffisamment de temps. Le contexte idéologique et politique commun qui se reflète dans les poétiques romantiques contradictoires, comme on vient de voir plus haut, fait qu'en Europe du 19e siècle, les poètes romantiques sont conditionnés à vivre de la façon très semblable à la réalité. Chez Utrecht, le problème du bonheur individuel se présente pourtant toujours dans le contexte de l'histoire nationale et de la nation qui aurait la tâche par définition d'assurer ce bonheur. Le destin particulier de l'individu se dilue dans la destinée générale du pays. La pensée politique hongroise a été essentiellement déterminée par le modèle du libéralisme français dans la première moitié du 19e siècle. Il est intéressant d'observer que la notion de la liberté et celle de la nation n'y apparaissent pas contradictoires. Les circonstances politiques impliquent d'une manière logique le renforcement de la conscience nationale dès le début du 19e siècle. La question se pose à savoir si c'est un phénomène spécifique à cette région et si les conceptions libéraux-nationales hongroises sont authentiques ou de simples emprunts. Le 19e siècle peut être considéré historiquement en Hongrie comme un essai de rejoindre l'Europe occidentale. Dans la vieille Europe, c'est l'État bourgeois qui nourrit la conscience nationale caractérisée par une sorte de fierté. Dans le jeune Europe, c'est le manque de cet état, d'où une sorte d'envie et d'illusion alimentée par la conscience d'une supériorité orgueilleuse. En Europe orientale, ainsi qu'en Hongrie, on mène en même temps la bataille pour la nation indépendante et pour la liberté de l'individu, ce qui engendre une tension constructive, à la fois autodestructive. Cette période historique s'appelle l'époque des réformes, où la nation, le collectif apparaît comme la garantie des droits de l'individu. On voit bien que les mêmes stratégies de réception sont adoptées en Hongrie que dans le cas des tendances philosophiques et esthétiques. Avec un décalage, on adapte aux conditions locales les idées politiques occidentales. Même si l'idée de la nation reste chez nous très compliquée à cause des minorités vivant dans le bassin des Carpates et revendiquant leur autonomie. Pourtant, on voit beaucoup de parallèles entre les pays européens où, indépendamment des frontières, les penseurs cherchent des réponses aux mêmes questions, l'éducation, les prisons, la centralisation et l'autonomie locale. Voir les événements historiques aussi, surtout au milieu du siècle, tendent vers le même point culminant. C'est dans les conceptions de Tvush qu'on retrouve dans sa totalité cet héritage libéral français. La problématique centrale du Chartreux est déjà l'isolement de l'individu qui est indifférent face aux autres et qui engendre le malheur social. C'est à ce point-là que notre écrivain surpasse le vague des passions et le mal du siècle. Je cite, « Celui qui ne trouve pas de satisfaction parmi les autres rend malheureux tout le monde autour de lui. Sa femme qui le caresse avec amour, l'enfant accroché sur son genou, l'ami qui lui serre la main, sont tous les victimes de sa mauvaise humeur. Ce n'est pas le printemps ni la pluie d'été qui font pousser le feuillage de l'arbre, mais c'est sa propre vigueur intérieure qui le fait verdoyer, et sans cette force intérieure, le soleil ne ferait que le sécher, la pluie le pourrir. » Merci beaucoup pour votre attention.